IDFM Radio, le média valdoisien.
Et c'est Alain Théo qui nous rejoint maintenant sur IDFM Radio. Merci d'être avec nous. Oui. Bonjour, en pleine forme.
Ah ouais, en pleine forme.
Tu arrives tout droit de la Bretagne.
Tout à fait.
Où tu vis depuis
Ça fait pas longtemps, ça fait un an.
C'est tout récent.
Ouais.
Avant, c'était plutôt le nord.
Oui, j'étais en région parisienne. Après, j'ai fait Chartres. On bouge pas mal.
Ouais, tu as pas mal voyagé. On t'a découvert en 1998. On rafraîchit un petit peu la mémoire des
avec
gens quand
plaisir,
même.
Avec plaisir.
Avec Emmène-moi.
Ouais.
Et puis tu as continué. Tu t'es un petit peu arrêté aussi. Mm-hmm. Y a eu des hauts, il y a eu des bas.
Ouais, tout à fait.
Plus de hauts que de bas.
Bah en fait, ce qui se passe, c'est que pendant 10 ans, j'ai fait du rock. Et Alain Théo qui fait du rock, on me prenait pas du tout au sérieux.
Oui, parce que c'était plutôt du son latino au début.
Complètement, hein. C'était très poppy, très voilà. Donc déjà, je suis parti un petit moment au Canada. Et puis ensuite,
pour faire quoi, te ressourcer, faire autre chose,
faire un deuxième album folk qui n'avait rien à voir avec le premier album. Et puis quand j'ai commencé à basculer dans le rock, là j'ai compris que on écoutait même pas ce que je faisais parce que le nom collait pas avec le style. Du coup j'ai monté des groupes de rock, j'ai caché mon nom là pendant 10 ans, donc j'ai jamais arrêté en réalité. J'ai toujours fait de la musique. Et voilà. Et puis au bout d'un moment, ce qui était très très marrant, c'est que je suis allé vraiment très très loin dans le rock, hein, parce que à force de me cacher, ça devenait un petit peu comment je pourrais dire ça. Au début, je me suis caché genre pour pouvoir faire mon boulot. Et puis au bout d'un moment, je me cachais parce que c'était bien pratique en fait de pas avoir à assumer ce que je faisais. Et comme je faisais des choses de plus en plus trash, je me suis dit tiens, c'est peut-être le moment d'assumer. Et donc c'est en 2010-2011, je suis revenu avec un album.
Moi, je me souviens de Je dérive en 2010.
Voilà, avec l'album Reprends les armes, où là je me suis dit bon, je vais faire un album sous mon nom et puis on va voir ce que ça va donner. Bon, ça a foutu le bordel parce qu'au niveau de l'image, j'avais pas du tout capté, parce que c'est très étrange d'expliquer ça, mais quand je m'appelle Alain Théo, j'étais ultra connu en 98.
C'est ton vrai prénom, Alain.
Oui, c'est mon vrai prénom en plus. Donc c'est ta vie, voilà, mais toi tu continues à vivre, tu continues à faire ta musique, sauf que les gens t'ont pas vu pendant 12 ans, on va dire.
Et ils se disent, Alain Théo a disparu.
Et pour eux, Alain Théo, c'est Emmène-moi, Lola, Sonia. Enfin, voilà, c'était la fête. Puis j'arrive à un truc super trash. D'autant que je voulais pas du tout, faire genre, je suis super connu. Donc, je suis allé sur une plateforme de crowdfunding comme n'importe qui. Et je me suis dit, tiens, comment je pourrais faire pour sortir la tête de l'eau? Parce qu'on est quand même 7000 à vouloir être produit. Comment je peux faire? Et du coup, je me suis dit, je vais faire ce qui me passe par la tête. Je vais faire ce que j'ai envie de voir. C'est-à-dire, un truc complètement déjanté, trash, j'ai envie de dire un peu à l'américaine.
Sans tu viens de cet univers-là ou pas du rock à la base?
J'en écoutais énormément. Mmh. Bah ouais, tu peux pas en faire si t'en écoutes pas. Et j'écoutais en fait, j'étais tout le temps en retard sur ce que je faisais. C'est-à-dire, plus j'écoutais des choses dures, et plus je me dirigeais, mais j'étais toujours en retard. Un album, tu sais, ça prend un an, quoi. Donc t'es toujours en retard sur ce que t'as envie de faire plus tard. Et là, c'est arrivé pile au moment où avec les réseaux, ça a démarré à mort. YouTube, tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc au niveau visuel, ça va être dingue. Puis ça a explosé. Donc c'est vrai que les gens m'ont retrouvé après Emmène-moi tout
aussi,
gentil.
Donc c'est pour ça que fonctionné.
Mais il faut oser des trucs, tu vois.
Très particulier quand même, je dérive. Hein, parce qu'après, tu égorges une personne aussi. Hein.
Oui. Non, mais.
T'as serial killer.
Après, le truc, c'était pouvoir. Tu fais une musique rageuse, c'est pas pour... Tu vois, à chaque fois que je voyais un groupe de métal, les mecs, ils étaient en groupe, ils secouaient la tête, il se passait rien, quoi. Alors oui, tu vas un petit peu dans Marilyn Manson, il se passe des choses sympas. Tu vas un peu dans Rammstein, c'est un peu sympa aussi. D'ailleurs, on était à peu près dans le même mood à ce moment-là. Mais en France, franchement, il se passait rien, quoi. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'éclater. Mais j'avais pas du tout pensé à l'impact du nom Alain Théo, tu vois. Moi, je suivais mon parcours artistique. Et là, bon, c'est sûr,
tu regrettes du coup, t'aurais voulu peut-être changer de nom pour ce passage rock ou pas?
Non, parce que, comme je disais, ça m'a forcé à voir ce que j'aimais et à assumer ce que je faisais, quoi. Honnêtement, je me cache pas. Voilà, j'ai pas honte. De toute façon, je peux pas avoir honte. Personne m'a dit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Personne m'a dit, ouais, stratégiquement parlant, c'est une bonne idée. Non, tout le monde m'a dit, faut surtout pas faire ça. Et moi, j'avais envie de m'éclater, j'avais envie de m'amuser. Et je m'attendais pas à ce que ça me fasse revenir sur la scène, parce que j'avais un boulot de pour pouvoir vivre, et puis je faisais des concerts à côté, mais c'était vraiment, comme je disais, je cachais mon nom, personne, on venait pas pour moi, quoi, tu vois, je faisais des tremplins rock, enfin voilà, quoi. Et là, d'un seul coup, je faisais des concerts sous mon nom, avec Ah, évidemment, je portais, j'avais un personnage que j'avais créé moi-même, mais hey, t'es obligé d'assumer, quoi. C'est toi qui a l'origine de ça. Donc voilà. Après, ce qui est assez hallucinant, c'est que au bout de deux ans et demi, parce que après j'ai tourné dans les salons de l'érotisme, etc. Enfin, je me suis éclaté.
Et oui, t'as fait un petit peu un passage plus adulte.
Oui, parce que je voulais mélanger la musique et l'érotisme. Voilà, j'avais vraiment, je voulais
et
vraiment.
Et c'est fini ça aujourd'hui?
Ben oui, parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est un milieu que je croyais très ouvert, mais en fait, absolument pas. Casser code, il veut pas. Déjà, c'est la crise comme en musique, hein. C'est pareil, hein. Tout ce qui est érotique, c'est très compliqué, quoi. Donc, ils s'accrochent vraiment à leur clientèle et tu leur amènes un projet d'album avec des clips érotiques. Pour eux, ils disent, on va perdre les gens. Personne te suit, en fait. Donc, j'étais un petit peu tout seul. Évidemment. My Manager Company allait pas me suivre là-dessus, quoi. C'était pour eux d'ailleurs, déjà quand je suis arrivé chez eux, ils l'ont découvert quand les médias se sont intéressés à moi. Ils savaient pas que j'étais là parce qu'ils peuvent pas savoir. On était je sais pas combien, oui. 7000, je disais. Bon bref. Et du coup après ça, ce qui a été fou, c'est que j'ai Franck des To Be Free qui vient me voir et qui me dit ouais, on voudrait monter un boys band. Je fais, mais mec, t'es fou, t'es tombé sur la tête. Je me suis mis nu dans des clips, j'ai fait des trucs super trash, cul et tout, et tu veux que je fasse partir un jour, mais tu planes. J'ai trouvé ça tellement dingue que j'y suis allé parce que j'avais plus peur. Tu vois, autant pendant mes années rock, bah, j'ai essayé de faire en sorte qu'on oublie un peu en menu moi parce que ça collait pas, autant là... Ah, mec, si tu veux que je fasse partie d'un boys band, mais bien sûr, parce que j'ai plus peur de rien. Je veux dire, j'ai plus besoin de me cacher de rien. Si on m'accepte comme ça, alors là, la boucle est bouclée.
Il y avait aussi Chris DG Squad, hein.
Il y avait Chris DG Squad.
Vous étiez un trio.
Et on a tourné pendant, je sais pas, moi, 6-7 ans.
Donc c'était Génération Boys Band.
Génération Boys Band. Et je me suis éclaté. Je me suis éclaté parce que je faisais tout ce que j'osais pas faire à l'époque d'Emmène-moi parce que je voulais pas être assimilé à un boys band, là je le faisais.
Mais t'étais un boys band à toi tout seul,
ouais,
donc là souvent...
C'est ce qu'on disait, mais sauf que je faisais pas de choré,
oui.
Je montrais pas mon corps. Enfin tu vois, j'étais le mec le plus propre de cette époque-là, quoi, parce que justement, je voulais pas qu'on m'assimile. Et là, j'y suis allé à fond, on a fait la tournée des Zéniths avec arrachage de t-shirts et tout, mais truc complètement dingue, truc que j'aurais jamais fait en 98. Et ça, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais vraiment, parce que je me suis retrouvé sur scène avec des gens heureux, tu vois. Parce que quand tu fais du rock, bah t'écris du rock, tu chantes du rock, t'enregistres du rock, t'es dans le dur. Tu vas en concert, t'envoies du dur, les gens t'envoient du dur, tu rentres chez toi, t'es tout le temps dans cette espèce de tension, tu vois. Et là, je me suis... Waouh, ça m'a fait du bien. J'étais dans le bonheur, dans la joie, dans le sourire, dans les gens qui sont heureux, qui disent « ça me fait tellement du bien ». C'est rare qu'on me dise « ça me fait tellement du bien » au niveau de la joie en rock. C'est plus « je me suis défoulé », mais c'est pas, ça m'apporte pas du bonheur. Tu vois. Et là, on a apporté du bonheur. Sauf que, voilà, avec Génération Boys Band, je me sentais un petit peu coincé au niveau nostalgie. Parce que c'est un peu jouer le jeu de « c'était mieux avant ». Quoi. Mais non, et à un moment donné, si tu fais rien aujourd'hui, bah oui, c'était mieux avant. C'est pour ça que je me suis orienté vers cette musique joyeuse. C'est pour ça que je veux faire des nouveaux titres et faire des choses joyeuses
aujourd'hui.
Tu reviens
un petit peu aux musiques ensoleillées avec Morena. Il y a une collaboration qui s'est faite dernièrement aussi avec l'artiste Idiaz.
Ouais.
On va en parler. Est-ce que tu as eu l'idée de revisiter aussi Emmène-moi ou Lola sur cette période rock ou pas? Non, t'as essayé un petit peu?
J'ai fait toute une série de de vidéos parodiques d'un mec qui veut remonter sur le devant de la scène. Je dis pas que c'est Alan Théo. Si, je dis Alan Théo is back. C'est vrai que c'est une série qui s'appelle comme ça. Où je me fous de ma gueule, en fait. Et derrière, c'est Emmène-moi. Parce que le mec, il veut revenir sur le devant de la scène, mais il veut refaire tout le temps le même titre. Mais il le refait en rock. Donc, tout le monde se fout de sa gueule. Enfin, bref. C'était vraiment un truc complètement décalé. Mais, je pense que je vais mettre un petit coup dans Emmène-moi en version plus électro. J'ai bien envie d'essayer ça parce que je pense que je vais aller là. J'ai eu vraiment toute une grosse période de très reggaeton pop latine et je pense que Morena ferme la boucle et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller dans quelque chose d'encore plus rythmé. Mais, étonnamment, qui va peut-être se rapprocher à ce que je faisais au tout début. Mais je pense qu'il a fallu que je fasse tout ça pour pouvoir, voilà, me dire, mais non, c'était pas un accident, ça, c'est moi aussi, quoi.
Et au début, quand tu rencontres la musique, tu es vraiment chanteur, tu veux faire ça, tu...
Ouais. Alors, moi, au début, j'ai rencontré la musique très très jeune, hein. J'étais au conservatoire de Versailles, je devais avoir 9 ans. Et mais je me destinais au piano. Moi, c'était vraiment le piano, ma grosse passion, ça a été le piano. Et sauf que j'ai commencé à écrire des trucs et à chanter. Et bah en fait, on m'appelait plus que pour chanter. Et pas que j'avais une super bonne voix, mais que ma présence, elle était plus en tant que chanteur qu'en tant que musicien. Et puis voilà, après, j'ai fait de la guitare, c'est pareil. Et quand je jouais de la guitare, j'étais pas guitariste, j'étais chanteur. Donc voilà, je suis parti de Grenoble, parce que j'habitais à Grenoble, pour Paris, pour la musique, pour la chanson.
T'as atterri plus précisément à Issy-les-Moulineaux, ouais, chez EMI. Hein,
tout à fait.
À la même maison de disque, les To Be Free aussi.
Mais hein. C'est ça qui est complètement dingue. Et vraiment, je dois avouer que pendant un an et demi que je suis arrivé sur Paris, j'ai vraiment essayé plein d'auditions, j'ai fait plein de trucs, j'ai passé mes maquettes, personne n'en voulait.
C'était quoi tes maquettes? C'était plus chansons françaises?
Ouais, c'était chansons françaises avec des petites touches jazz, parce que je faisais beaucoup de jazz. Donc t'imagines, le jazz déjà en français, et puis un petit jeune qui arrive à l'époque des boys bands, c'était même pas la peine, quoi. Personne n'écoutait ce que je faisais. Et moi, à chaque fois que je me retrouvais sur une audition, on me parlait plus de promos, de photos, que de musique. Donc j'étais complètement à l'ouest.
Donc t'acceptes quand même finalement?
Bah en fait, ce qui se passe, c'est que quand je décide de fermer la page avec le côté chanteur, de me dire je vais faire une grosse formation de musicien au conservatoire de jazz de Paris, j'ai une bourse pour le faire, sauf qu'il fallait que je puisse manger. Donc il me fallait un travail le week-end. Et à force de faire des auditions, des petits boulots, j'avais rencontré une danseuse qui me dit, bah voilà, chez Jacques Martin, il cherche quelqu'un pour amener les récompenses aux artistes. Donc t'imagines la vis qu'elle t'envoie dans la tronche. Oui. Toi, tu viens sur Paris pour être artiste, et en fait, tu vas juste amener les récompenses aux artistes sur un plateau de télé déguisé en groom. Déjà, psychologiquement, tu vois, ça te redescend sur terre. Et le jour où j'y vais, là, le programmateur voit mon CV, il me dit, tu fais de la chanson, tu chantes et tout ça, tu fais du piano, tiens, on va faire un bout d'essai. Je fais, ouais, encore une millième audition qu'on va me faire passer pour rien. Et puis, je fais mon truc, je fais un charabia sur un bout de truc qui était un peu d'ailleurs R&B, ce qui a tombé bien avec le jazz. Et puis, je sors, il me fait, on va faire un disque. Je fais, mais ouais, vas-y, on va faire un disque, bien sûr. Donne-moi déjà mon travail chez Jacques Martin, après le disque, on verra. Donc il me dit, voilà, on a quelques mélodies, qu'est-ce que t'en penses? Et puis j'entends, tu vois, c'est pas mal et tout, j'aime bien, c'est assez, voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais franchement, la mélodie est forte. Tu la joues au piano ou à la guitare, ça marche. Ok, on fait les paroles, machin, on enregistre vite fait, emmène-moi du coup. Et moi, je continue à travailler chez Jacques Martin, sauf que le titre, il part en radio, et il explose en radio, et Jacques Martin m'invite, et du jour au lendemain, ma vie a changé, quoi. Mais ce qui est rigolo, c'est que le programmateur m'a dit, mais faut... Au bout d'un moment, il va falloir que tu arrêtes de faire le groom qui rapporte les trucs parce que oui, ton titre, il cartonne. Et voilà. Et c'est vrai que quand il m'a invité, ma vie a complètement changé. Là, j'ai enchaîné toutes les télés, les radios. Et ma vie avait changé, quoi.
T'as gagné beaucoup, beaucoup d'argent avec Emmène-moi.
Ouais.
T'as réussi quand même à les garder un petit peu.
Ah, bah ouais, pendant 5 ans, j'étais sur une autre planète, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis pas. Moi, je viens, voilà, mes parents, mon père, il était. Électricien, ma mère secrétaire, tu vois, c'était pas, on savait économiser l'argent, tu vois. Mais par contre, j'ai autoproduit mon deuxième album parce que voilà, j'étais emmené à l'Anteo, on me demandait tout le temps de faire la même chose et moi je voulais pas.
Oui.
J'ai changé de style et c'est pour ça que je suis parti au Canada d'ailleurs. Et j'ai autoproduit mon deuxième album qui m'a coûté énormément d'argent parce qu'à l'époque tu faisais pas ça tout seul dans ta chambre.
Parce que t'as gagné avec Emmène-moi, du coup,
ouais,
tu l'as injecté dans
beaucoup qui, bah voilà, qui a eu un succès très faible par rapport à ce que j'avais connu. Donc bah de fil en aiguille, à chaque fois que j'allais rencontrer une maison de disque, on me disait tu veux pas faire Emmène-moi 2001, 2003, à chaque année on me demandait de refaire la même chose que ce que je faisais. Et donc je suis rentré dans cette espèce de révolte et c'est là que je me suis dit il va falloir que je coupe. Donc je me suis rasé la tête, j'ai carrément balayé mon nom et j'ai monté des groupes et voilà. Et
tu regrettes rien de toute façon?
J'avais pas
c'était
le choix.
C'était ton choix de toute façon. Mais après Emmène-moi, Lola, de faire un petit peu autre chose, de partir.
Tu sais, quand j'étais interdit bancaire en galère totale, que parce que il m'a fallu quand même un an et demi de procès pour me sauver de mon contrat qui me liait pour pouvoir faire ce que je voulais. Donc avocat, procès, ben voilà quoi. Que tu veux faire ton métier et que qu'on que tout le monde t'ouvre les portes si tu fais un certain truc et que tu peux pas le faire, au bout d'un moment, tu peux pas te plaindre. Mmh. Tu vois, c'est ta faute, mec. C'est
en tout cas, t'en as bien profité, ouais, à fond. Tu savais aussi peut-être que ce succès allait être éphémère ou pas?
Pas du tout.
Que tu étais un produit ou pas?
Non, pas du tout, honnêtement.
Parce que ça a été le cas pour les To Be Free.
Ouais.
Hein. Ils sont tombés de très très haut quand on leur a dit on arrête tout.
Bien sûr.
Parce que le deuxième disque ne marche pas.
Ouais, alors après, comme je disais, moi, j'ai pas voulu faire ce qu'on me disait de faire. Donc je voulais faire un deuxième album qui était folk avec des cordes et avec des chanteurs de flamenco et tout. On m'a dit non mais t'as pété un câble, c'est même pas la peine. Donc je me bats pendant un an et demi pour me libérer. C'est pas pour me plaindre après d'être libre. Tu vois, c'est ta faute. Mais je pensais pas que ça allait être aussi. Moi je pensais que si tu mettais tout ton cœur, ça allait marcher, tu vois.
Des le côté humain, oui.
Des musiciens
sûr.
De ouf. J'ai travaillé avec des poètes. Enfin c'était l'album c'est dément, quoi, ce qu'on a mis dedans. La quantité de talent, et je parle pas du mien, je parle de toutes les gens que j'ai réunis parce que j'avais les moyens de les réunir. Et en fait, ils en avaient rien à foutre. Les maisons de disques en avaient rien à foutre. Et c'est là que je suis tombé de haut. Vraiment. Parce que j'avais été pris dans un tourbillon au début, je me suis pas rendu compte, c'était marrant, machin, mais j'étais prisonnier de mon propre personnage et de mon propre succès. Et effectivement, moi j'ai vu ceux qui étaient autour de moi, on les achetait comme des merdes. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, qui gagnait pas à la hauteur de ce qu'ils vendaient. Moi, j'ai eu la chance d'être auteur. Donc, tu vois, au niveau des droits d'auteur, j'étais vachement gagnant par rapport à eux. Mais j'avais la musique. Je pouvais toujours faire mes titres. Je pouvais toujours enregistrer. Je pouvais toujours faire quelque chose. Eux, c'était terminé, quoi. Et bon, bah voilà, on sait ce qui s'est passé. Il y en a plusieurs qui ont mal viré. Certains qui sont morts. Enfin, c'est chaud, quand même.
Alan Théo est toujours avec vous sur IDFM Radio. On va écouter le Alan Théo actuellement avec Morena et la participation d'un artiste qui s'appelle Tidiaz.
Take a chance. Ain't got forever. We only got today. Oh, yeah.
Merci beaucoup d'être avec nous sur EDFM Radio. Nous avons l'immense privilège aujourd'hui d'accueillir Alain Théo. En tout cas, à l'époque, je ne l'ai jamais rencontré, fin des années 90. Très, très pris par le succès. Un gros et beau projet. Du coup, on te voyait partout à la télé. Tu allais sur les gros médias, mais pas forcément chez nous. Voilà, parce que c'était pas l'objectif et le but recherché pour la maison de disques et l'équipe qui t'entourait. Aujourd'hui, on t'accueille en tout cas les bras ouverts. Tu reviens avec un petit peu aussi ce son latino, ce son ensoleillé que nous te connaissons bien grâce au tube Emmène-moi ou Lola. On est donc en 1998. Tu t'es associé à un artiste s'appelle Tidiaz qui lui aussi a eu énormément de succès en club ou même en radio avec Clara De Luna, je crois.
Clara De Luna.
Voilà,
ouais.
Tout à fait. Qui finalement te rejoint dans ce que tu faisais, dans tes premiers succès. Lui continue aussi. Il est plus forcément comme toi sous les projecteurs. Comment vous vous êtes finalement contacté, lié d'amitié? C'est lui dans un premier temps?
Pas du tout. En fait, on s'est retrouvé parce que je fais beaucoup de concerts. Je fais beaucoup de concerts, que ça soit des plateaux un peu vintage 90 ou des choses de maintenant. Et lui s'est retrouvé en première partie. Et quand j'ai écouté ses titres, c'était exactement le style que j'étais en train de faire. Et bon, en plus lui chante, mais laisse tomber quoi, la voix qu'il a. Je me suis dit, waouh, ça serait peut-être bien d'arrêter d'être toujours tout seul dans tout ce que je fais quoi, parce que voilà, d'ouvrir sur quelque chose. Et en plus, bah, il a, je sais pas, il doit avoir une petite quinzaine. Ouais, bien 15 ans de moins que moi quand même. Donc il est vraiment.
Ça se voit pas trop, ça va.
Mais il a pas du tout la même façon de penser sa musique. Tu vois ce que je veux dire? Il est très TikTok, il est très truc comme ça. Je me suis dit,
oui,
ça peut être super intéressant de mélanger et son style un peu flamenco et le mien plus pop. Et donc je l'ai appelé carrément. Je lui ai dit voilà, j'aimerais faire un duo, mais j'aimerais partir sur quelque chose de vierge, pas ni flamenco ni ce que je fais moi maintenant. Et il m'a envoyé une salsa carrément. Et il me dit m'envoie une salsa. Je fais waouh, on n'est pas à Cuba, comment on va faire? Et il m'a donné l'autorisation de pouvoir la transformer. Alors la chance aussi, et ça c'est vraiment fantastique parce que j'ai l'air d'un dinosaure, mais je trouve ça fantastique de pouvoir faire sa musique chez soi. Moi, j'ai fait des grosses formations en mix et en réalisation. Maintenant, je fais ma musique tout seul. Mais c'est fantastique. On pouvait pas le faire avant. Tu disais tout à l'heure, j'allais pas sur les petites radios. Maintenant, je peux. Parce que je suis indépendant et je peux vraiment faire un projet de A à Z tout seul. Alors, c'est sûr que quand t'as une grosse cavalerie derrière toi, il y a des choses qui s'ouvrent.
Ah, il y a plus de poids.
Voilà.
Oui.
Sauf que moi, j'ai connu ça. Voilà. Et j'en ai payé le prix fort. Parce qu'une fois que t'es là-dedans, tu peux pas faire ce qui te passe par la tête. C'est même pas en rêve. D'ailleurs, la plupart de ceux qui perdurent font toujours la même chose.
De toute façon, t'étais très lissé au début. Il fallait
bien
pas
sûr
qu'on sache que t'avais une femme ou
ouais,
une copine
ouais, ouais,
ou quoi que ce soit.
Mais
il fallait rester célibataire
mais
du début
oui,
jusqu'à
mais
fin,
ce qui est fou, c'est que personne m'a rien dit. C'est-à-dire que toi, t'es dans un truc, tu veux que ça marche. T'es dans un mode séduction totale. Donc voilà, je m'adressais à des adolescentes. Évidemment, j'allais pas parler de la mort, des machins, de la paternité, tout ça. J'allais parler de quelque chose de très romantique, très joyeux, parce que j'avais envie de les séduire.
Mais même de dire qu'un artiste est homosexuel sur cette période-là,
bien sûr,
ça aurait cassé le mythe
mais
de
oui,
toutes ses fans, en fait.
Carrément.
Donc on demandait aux
beaucoup
artistes de ne pas le dire.
Il y en avait beaucoup, bien sûr. Il y en avait beaucoup des artistes homosexuels qui pouvaient pas du tout s'exprimer là-dessus. Après, il y a plein de choses super qui se sont passées, qui sont moins lourde aujourd'hui qu'à l'époque. Mais voilà, je rencontre Tidiaz et quand j'écris, j'essaie de me mettre un peu dans sa peau et si tu lis un peu, si tu captes un peu le texte, il y a un mélange un peu rétro de français et d'images modernes et voilà, mélangé à l'espagnol et puis je t'ai transformé ça en reggaeton, salsa, flamenco, on sait pas trop ce que c'est.
Et Tidiaz, tu connaissais un petit peu notamment le tube, la Clara De Luna qui était sortie en 2017.
Mais non.
Tu l'avais suivi ou pas du tout?
Non, pas du tout, je l'ai découvert sur scène.
Ah,
voilà.
D'accord.
Et pour la petite histoire, ce qui est dingue, c'est que bah lui il habite dans le sud-ouest hein et moi j'habite en Bretagne, donc t'imagines la distance. Donc il m'a envoyé ses voix, j'ai envoyé la musique et j'ai tout mixé à la maison et la première fois qu'on s'est retrouvés, c'est je suis allé faire un concert dans sa région et je l'ai invité. Et la première fois qu'on l'a chanté ensemble, c'était sur scène. Voilà. Et c'est la magie de cette chanson. Et d'ailleurs, on a fait une captation qui est dans le clip. Voilà. Et
ça danse beaucoup dans le clip. Hein.
Ah ouais, mais c'est l'instant, quoi. C'est l'instant. On s'est pas posé de questions.
T'as pris un peu plus à danser pour le clip, là, ou
Non.
Tu savais quand même de toute façon.
Ouais. Moi, j'ai toujours aimé la musique latine. Quand en 98, j'ai fait un titre qui s'appelle Soñar. Oui, dans le clip, on dansait la salsa et c'était à Cuba. Donc, je peux te dire que j'avais un prof qui était derrière moi pendant une semaine pour que je fasse les trucs bien, quoi.
Mais bon, ouais. Là, c'est pas les mêmes moyens. Vous êtes pas parti à Cuba.
Ah bah non, c'est sûr. mais bon, il y a de la joie, mais c'est l'instant, quoi. C'est vif.
Donc une belle choré aussi pour accompagner
ce
morceau.
Tout à fait.
Tu savais que tu voulais faire une choré autour de Morena?
Non, pas du tout. Forcément. En fait, c'est le réalisateur, sa chérie est prof de danse, donc elle dit on va faire une choré, tout ça, on va aller dans la rue, mais à l'arrache, quoi, tu vois, on n'a pas bloqué les rues, on s'est mis à une vingtaine dans la rue à danser et puis voilà, on a filmé et ça s'est fait comme ça.
Ce titre t'a remis un petit peu sur scène ou pas forcément?
Tu parlais
déjà de Génération Boys Band, hein, par l'intermédiaire de Franck Delay, des To Be Free, ouais, qui t'a demandé de monter un boys band et tu lui as dit oui, même si c'était complètement hallucinant et fou.
Ouais.
Donc là, tu remontes sur scène.
Ouais.
Et après, derrière, tu continues quand même un petit peu à monter sur scène avec des concerts style spécial 90.
Tout à fait. En fait, ce que j'avais pas fait pendant toute ma période rock et ce que j'avais refusé de faire d'ailleurs, hein, je le fais maintenant avec grande joie et j'ai vraiment de la chance parce que j'ai arrêté Génération Boys Band, on a fait énormément de concerts et je suis reparti tout seul et j'ai fait ma petite promo, mon petit mailing, mon petit machin et en fait j'ai plein de concerts. Des plateaux, on est multi-artistes, je fais mes propres concerts, voilà, c'est ça aussi, hein, t'as un site internet, t'as une mailing list, t'envoies ça à tes abonnés, tu fais un concert dans telle salle, ils viennent, enfin, c'est la magie d'aujourd'hui, j'adore.
Chris DG Squad, du coup, qu'est-ce qu'il fait, puisqu'il...
Ils continuent à faire Génération Boys Band, mais ils sont à deux avec des danseurs.
D'accord,
donc
ok.
Ils continuent, et ils ont bien eu raison, parce que là, avec tout le tapage qu'il y a autour de To Be Free, je peux te dire que ça va bien les booster, ça.
Ouais, c'est chaud, en plus, ça, parce que plein de questions autour de Philippe, nanana. C'est pas évident, en fait, hein.
Ouais, mais bon, après, comme on dit, hein, tant qu'on parle de toi, et je sais de quoi je parle, tant qu'on parle de toi, c'est bon, quoi.
Franck Delay continue, tu sais, un peu le théâtre, parce que moi, je l'avais vu dans une ou deux pièces de théâtre aussi.
Oui, c'est son truc. C'est vraiment son truc. Il enchaîne pas mal. Au début, quand il nous en a parlé, on savait pas trop, puis finalement, ça fonctionne bien pour lui. Il est à fond là-dedans, hein, il est vraiment à fond.
En tout cas, il y a Morena, donc actuellement, tu travailles sur d'autres titres,
oui,
un peu dans le même sens, il y aura peut-être des balades aussi.
Là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'up-tempo, électro, pour danser. J'ai vraiment envie de faire des choses pour la scène. Voilà, je crois que ça a été le gros plaisir pour moi, c'est que pendant tout le long de ma carrière, depuis le début que je fais de la musique, je veux faire de la scène, j'ai jamais eu autant de plaisir qu'en ce moment. Il m'a fallu même faire une psychothérapie pour comprendre pourquoi j'étais pas à l'aise sur scène, parce que j'étais tout le temps en performance, j'étais jamais dans le plaisir. Et j'ai découvert, voilà, il y a peu de temps, le plaisir, et du coup, je veux vraiment que toute ma musique soit tournée sur la scène.
La performance par rapport aussi au fitness, parce que tu aimes depuis de nombreuses années. D'ailleurs, tu soutiens une certaine Julie aussi.
Tout à fait, ma chérie, ouais, qui est à fond là-dedans, qui est championne de France IFBB, ouais, dans cette discipline. Donc,
ça, c'est une discipline aussi qui demande un moral d'acier.
Ah ouais,
c'est très rigoureux. Vous êtes obligé de faire de la sèche. Vous êtes obligé de faire plein de concessions.
Ouais. Alors moi, personnellement, je fais pas de compétition. Hein.
Non, mais tu continues en tout cas à t'entretenir, à faire du sport.
Moi, j'en ai toujours fait.
Tes épaules sont toujours quand même assez...
non, mais oui.
T'en as fait un peu de compétition
mieux. Non, j'en ai jamais fait. Je pense être plus en forme aujourd'hui qu'à l'époque d'Emmène-moi. Et pourtant, à l'époque d'Emmène-moi, j'étais vraiment en forme. Mais là, au niveau alimentation et sport, c'est vraiment l'idéal. Je pense que ça oriente aussi ma musique. Parce que si j'étais pas aussi mobile, si j'avais pas autant d'énergie, si je pouvais pas danser comme ça sur scène, je ferais pas cette musique non plus. Donc tout est lié, tu vois. J'ai des potes à moi, ils me disent « Non mais arrête, tu vas mourir !» Je fais « Merde, mec, je m'entraîne tous les jours une heure et demie pour pouvoir faire de la scène pendant une heure et demie à danser non-stop et à chanter. » Tout est lié, en fait. On sous-estime l'importance de l'alimentation et deux, du sport. Parce que même... quand tu travailles, t'as plus d'énergie, t'es plus endurant, tu récupères mieux. Enfin bref, je vais pas faire un truc sur le sport, mais c'est vrai que le sport, maintenant, il est vraiment déterminant par rapport à avant. Parce que j'ai 53 balais et je suis plus en forme que quand j'en avais 27. Donc, et le facteur, c'est le sport.
Tu le dis aux jeunes fans que tu rencontres qu'il faut faire du sport, c'est important.
Ouais, en fait, je veux pas être prosélyte, mais je
n'est pas obligé de te ressembler parce que toi, tu es vraiment, voilà.
Je poste régulièrement le backstage. C'est-à-dire, oui, vous me voyez sautiller comme un fou sur scène à danser de la salsa, à chanter comme un dingue. Mais avant ça, il y a tout un training de fou qui est pas rébarbatif, hein, qui est très joyeux, parce qu'au bout d'un moment, t'adores ça, mais l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de baguette magique. Voilà. Donc je veux pas dire il faut en faire, mais par contre, c'est clair que ça change beaucoup de choses.
Actuellement, quand tu tournes, tu fais plutôt un set qui va en direction aussi de la chanson Morena, ouais. La chanter Suave Mente, ouais. Aussi.
Oui. Danza Kuduro, mais des fois je fais Un, Dos, Tres, Maria, tu vois, je fais. Oui, je veux vraiment faire quelque chose de joyeux.
Et sortir un album avec toutes ces reprises,
ouais.
Non?
Non, je suis pas trop reprise, mais par contre, oui, comme je disais, là, je.
Kenji l'a revisité, ouais, il y a pas longtemps, le Un, Dos, Tres, en plus.
Moi, j'ai envie de boucler. Le côté et je trouve que Morena c'est parfait pour boucler cet album de musique latine et je veux vraiment faire quelque chose de beaucoup plus moins comment je pourrais dire ça plus lâché voilà parce que le reggaeton tout ça j'aime beaucoup mais il me manque quelque chose de lâché que je pouvais retrouver dans le rock quoi un truc où tu tiens pas quoi tu sais pas quoi faire tu sautes tu hurles voilà je veux faire un truc comme ça.
On te verra où bientôt plus en province en règle générale quand tu fais des tournées,
ouais,
des galas, des
ouais,
spectacles.
Bah là, le week-end prochain, je suis à Coquel, mais je crois que c'est complet. Après, il y a mon site alanteo.fr, je mets toutes mes dates. Et puis le 11 juillet 2026, il y a le festival Skyburfest que je co-produis. On a monté un festival là, dans le nord de la France.
C'est assez rock.
Alors non. Là aussi, je veux que ça soit joyeux. Je veux vraiment que ça soit joyeux. Et là, cette année, c'est la première fois que je vais inviter les poteaux, c'est-à-dire Tragédie, Evangélie, Benny B, Boris, tout ça, tous ceux avec qui je tourne assez souvent. Je vais
c'est
les
devenu
réunir.
Des amis, des copains,
ouais.
Des proches quand même.
Ouais.
Il y a une famille quand même.
Oui.
Même
oui,
si
oui.
On pense que showbiz, voilà, c'est.
Non, mais voilà, comme je disais, c'est quand même de la musique joyeuse. Tu vois, donc tu peux
oui,
pas être un
pas
gros connard et chanter
parfait.
Cette musique, c'est j'y crois pas. Voilà. Alors il y en a qui sont spéciaux, mais au bout du compte, ce sont quand même des gens qui veulent donner du plaisir. Du coup, bah voilà, il y a des atomes crochus.
Les Worlds Apart, tu les as côtoyés, tu les côtoies encore.
Ils sont adorables.
Ouais.
Ils sont adorables. Worlds Apart,
ils sont à leur image quand on les voyait aussi
sérieux.
Cette même période fin des années 90.
Ah ouais.
Toujours avec le sourire,
ouais.
Très partant pour échanger avec le public.
Ouais.
Et encore aujourd'hui.
Ah non, mais moi je les adore. Et puis on s'adore à chaque fois qu'on se voit, on est super content.
Bah tu les as, ils étaient à Issy-les-Moulineaux aussi chez EMI, je crois.
Tout à fait. Mais moi je les avais pas rencontrés à l'époque.
Tu les avais pas.
Et les To Be Free non plus, je les croisais pas beaucoup. Mais c'est vrai que les Worlds Apart, ils sont vraiment adorables. Franchement, c'est des bons gars.
Eh bien, merci beaucoup Alan Théo d'être
beaucoup.
Venu nous rappeler ces quelques moments de ta vie, de ton parcours musical.
Cool.
Et on rappelle que ton dernier morceau en date, c'est Morena avec la participation de l'artiste Tidiaz. Hein. C'est bien ça, c'est
tout
Alan Théo et Tidiaz
tout
ou Tidiaz et Alan Théo.
Là, c'est lui qui a
de toute façon, vous chantez presque le même temps
bah
dans
oui,
le morceau.
Oui, c'est fait exprès.
À bientôt Alan Théo.
À bientôt.